En introduction, nous lisons un verset d'Hébreux 12 que nous illustrerons par quelques scènes de la parole. Hébreux 12, au début du chapitre. C'est pourquoi. L'affirmation qui précède, c'est « Tous ceux-ci sont morts, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Afin qu'ils, ces témoins d'Hébreux 11, de l'Ancien Testament, ne parviennent pas à la perfection sans nous. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, donc tous ceux dont il est question au chapitre 11, la note nous dit « témoins de cette vérité de la vie par la foi ». Alors cette nuée de témoins nous entoure, qu'avons-nous à faire ? Rejetant tout fardeau. Premier point. Rejetant tout fardeau. Les fardeaux sont nombreux, les fardeaux sont lourds. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Donc il nous enveloppe, il est autour de nous, il est du dehors. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. C'est la prière que nous venons de demander. Lequel est le chef, celui qui commande, qui marche à la tête, le consommateur qui a réalisé la vie de la foi, dont cette nuée sont les témoins, le consommateur de la foi qui a rendu parfait cette vie de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et a méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'exhortation revient pour nous, premièrement rejeter, deuxièmement, verset 3, considérer. Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, lassés, étant découragés dans vos âmes. Nous illustrons ces versets et ces exhortations par quelques scènes de l'Ancien Testament, avec, donc, je prendrai comme titre les pourquoi. Pourquoi ? Nous laissons de côté Job, qui est un exemple remarquable, dont le livre est certainement le plus ancien de l'Ancien Testament, de la parole. Et il faudrait tout un après-midi pour traiter ce sujet sobrement, succinctement. Je laisse de côté Élie, même si on pourra y faire allusion. Je suis resté moi seul. Alors nous lisons au deuxième livre des Rois. Au chapitre 4. Nous lisons au verset 14, « Qu'y a-t-il donc à faire pour elle ?» Elle qui avait répondu, « J'habite au milieu de mon peuple. » Ne laissons pas de côté cette satisfaction, cette tranquillité, cette paix de cette femme, « J'habite au milieu de mon peuple. » En opposition à plusieurs d'entre nous qui vont chercher ailleurs, « J'habite au milieu de mon peuple. » Là où le Seigneur est là, là où le Seigneur a promis sa présence, et là où je sais où je dois être, non pas une entrave, mais une aide. J'habite au milieu de mon peuple. Alors, qu'y a-t-il à faire pour toi ? Eh bien, Géasi dit, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée lui dit, appelle-la. Elle se tint dans la porte. Élisée lui dit à la femme, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. Alors elle dit, la femme répond, nullement une incrédulité, mais dans la réalisation de l'accomplissement de son souhait, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante, que ce que tu as dit se réalise effectivement, pleinement. Verset 19, il dit à son père, ma tête. Verset 20, il emporta et l'amena à sa mère, il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Alors, que fait la femme? Elle avait bien dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne ment pas à ta servante. Et voilà que quelques années après, son fils unique, meurt sur ses genoux. Que fait-elle? Elle monta et coucha son fils sur le lit de l'homme de Dieu. Elle ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai, et je reviendrai. Son mari lui dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est pas ni nouvelle lune ni sabbat. Et elle dit, tout va bien. J'habite au milieu de mon peuple, et maintenant que son fils est mort, tout va bien. Elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, mène-la et marche. Ne t'arrête pas dans la course à moins que je ne te le dise. L'affaire est pressante. Ne nous laissons pas distraire dans le chemin qui mène jusqu'à l'homme de Dieu. Ne nous laissons pas distraire. Et dans le poids de la peine, elle va le plus rapidement possible. Et elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, donc de Sumène jusqu'au Carmel. Il arriva, quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, voici cette tsunamite, cours maintenant, je te prie, à sa rencontre et dis-lui, tout va-t-il bien, ton mari va-t-il bien, l'enfant va-t-il bien? Et elle répond, bien. Ne se laisse pas distraire. Ne t'arrête pas dans la course. Et alors elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et elle le saisit par les pieds et Géasi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu dit, laisse-la. Son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas déclarée. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Est-ce moi qui ai demandé un fils? J'avais bien précisé, ne me trompe pas, ne mens pas à ta servante. Alors l'homme de Dieu, Élisée, verset 29, dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton en ta main et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du jeune homme. Mais la mère du jeune garçon dit, il avait quelques années, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Alors Élisée se leva et s'en alla après elle. Et Géasi les devança et mit le bâton sur le visage du jeune garçon, et il n'y eut pas de voix ni de signe d'attention. Et il, Géasi, s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta disant, « Le jeune homme ne s'est pas réveillé. » Élisée entra dans la maison et voici le jeune homme était mort, couché sur son lit. Il entra, ferma la porte sur eux deux et supplia l'Éternel. Et il monta et se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, se courba sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ils se retiraient, et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et il montait et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géasi, il lui dit, appelle cette tsunamite. Il l'appela, elle vint vers lui, et il dit, prends ton fils, prends ton fils. Et elle vint et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre, et elle prit son fils et sortit. Hébreu 12 commence en effet, rejeter tout fardeau. Quel fardeau que le deuil, cette femme fidèle, qui prenait soin de cet homme de Dieu, qu'il retenait pour manger, qui lui a préparé une petite chambre en maçonnerie, un lit, une table, un siège, un chandelier. Et l'homme de Dieu, Élisée, s'arrêtait dans cette famille, trouver le réconfort, non seulement physique et matériel, mais bien sûr spirituel, dans la communion de cette famille et de cette femme en particulier, quant à l'Éternel, à ses soins, à ses soins. Oui. Père, nous comprendrons, là-haut devant ta face, ta très grande bonté envers chacun de nous, tes élus. Pourquoi ? Eh bien, Dieu en général ne nous demande pas de comprendre, mais il nous demande de considérer Jésus, de rejeter tout fardeau. Nous savons combien cela est difficile, rejetant sur lui tout votre souci car il a soin de nous. C'est souvent qu'on cite ce verset, c'est souvent qu'on en parle, et on répète toujours en fait la même chose que nous vivons. On prie, on dépose le fardeau, puis quand on se relève, on reprend le fardeau. Pourquoi ? Ne mens pas à ta servante. Ne me trompe pas. Pourquoi ? Eh bien, la leçon, l'exemple que nous donne cette femme, c'est de ne pas se laisser distraire et de ne pas essayer de partager avec d'autres son amertume. C'est bien ce que discerne Élisée. Voici cette tsunamite, son âme est dans l'amertume. Voilà le fardeau, l'amertume, le deuil. Elle s'était attachée à cet enfant, son fils unique. Dans Luc, fils unique, fille unique, c'est dans Luc qu'on retrouve ce fils unique, fille unique. Rien à voir évidemment avec Genèse 22, prends ton fils, ton unique, chaque chose à sa place. Là nous sommes dans les familles des hommes, nous sommes parmi nous, parmi tes élus. Le fils de la veuve de Naïn, la fille unique qui avait 12 ans. Et la leçon que nous donne cette femme, donc, c'est sa détermination. Elle ne perd aucun instant et elle ne se laisse distraire en aucune façon. Elle scelle l'ânesse, elle demande à son jeune homme de monter jusqu'au Carmel sans s'arrêter. Remarquons que c'est la même chose que Élisée demande à Géasi. Si quelqu'un te salue, tu lui réponds pas. Tu vas le plus vite possible. Mais Géasi, c'est l'homme selon la nature. Et remarquons que la femme n'a pas suivi Géasi. Est-ce un manque de foi ? C'est un attachement profond à l'homme de Dieu et à travers l'homme de Dieu, un attachement profond à l'Éternel lui-même. Celui que maintenant nous connaissons comme Père. Père, nous comprendrons là-haut, dans la lumière, tes immenses bontés. Cette femme est donc dans l'amertume, cette femme ne se laisse pas distraire, mais la leçon qu'elle nous donne, c'est celle que nous avons avec Marthe et Marie en Jean 11, c'est qu'elles ne se trompent pas d'adresse. Elles envoient dire Marthe et Marie, envoient dire au Seigneur, celui, maître d'abord, maître. Et là, elle appelle l'homme de Dieu Seigneur. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, maître, celui que tu aimes est malade. Un point, c'est tout. Eh bien, rejetant tout fardeau, ne nous laissons pas écraser. Mais je répète, et je le redis et je redirai, cela est plus facile à dire qu'à réaliser. Mais nous avons là l'exemple de cette femme, nous avons les exemples de la parole qui nous montrent les ressources et quels sont les moyens pour rejeter tout fardeau, ne pas nous laisser écraser par le fardeau. Il y a le Père dans les cieux. Sans rapport alors avec le pourquoi et l'amertume de cette femme, remarquons en passant la façon dont Élisée doit agir pour réveiller cet enfant en opposition au Seigneur qui par une parole. Lazare ici dehors. La fille de Jaïrus, il la prend par la main. Jeune fille, je te dis, lève-toi. Et pour le fils de la veuve de Naïn, je ne sais plus. Il faut regarder en Luc. Je ne sais plus. Je ne sais plus quelle parole il. Mais par une parole, il agit. Ici, c'est plus difficile. Rappelle aussi Élie qui ressuscite le fils de la femme chez qui il avait logé pendant les années de disette, de sécheresse, de famine. Et cette femme a sa récompense. Ici, elle reçoit son fils. Dans les trois cas cités, le fils de Naïn, la fille de Jaïrus, Lazare, les personnes, la famille, ont récupéré celle qui était mort. Ici, elle a pris son fils et s'en alla. Et on n'entend plus parler d'elle. Sinon, Géasi plus tard. Que nous puissions tout simplement, en effet, sceller notre ânesse, monter au Carmel, là rencontrer Dieu, saisir les pieds de l'homme de Dieu. Et alors, elle ne dit pas à l'homme de Dieu, tout va bien. Elle ne répond pas à l'homme de Dieu, bien. Non, elle ne dit rien. Elle saisit ses pieds, 27. Elle vint vers l'homme de Dieu, sur la montagne, elle le saisit par les pieds. Et elle ne dit rien. Alors après, elle prend la parole quand la mère, le jeune garçon, dit « Ai-je demandé ?» Quand Élisée dit « Son âme est dans l'amertume », alors elle dit quelques mots tout simples « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit ? Ne me trompe pas. » Le fardeau. Nous venons au livre des juges, deuxième scène, avec Gédéon, au chapitre 6, juges 6. Verset 1er, les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut forte sur Israël. Verset 11. Un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe qui est à Ophra, lequel est à Joas, la Biézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. » Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Puisque l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi? Où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Et maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont toutes les merveilles Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Verset 14. L'Éternel le regarda et lui dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Et il, Josué, répond, « Ah, Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici mon millier et le plus pauvre en Manassé. Moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Moi, je serai avec toi et tu frappas Madian comme un seul homme. » Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, alors Juge 6, verset 20, l'ange de Dieu dit à Gédéon, prends la chair et des pains sans levain et pose-les sur ce rocher-là et verse le bouillon. Et il fit ainsi, et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait dans sa main, toucha la chair et les pains sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla devant ses yeux. Et Gédéon vit que c'était un ange de l'Éternel, et Gédéon dit, « Ah, Seigneur Éternel, si c'est pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, étant donné que nul ne peut voir ma face et vivre, comme Manoah et sa femme, si c'est pour cela que tu t'es révélé à nous, afin de nous détruire, car nul ne peut voir ma face et vivre. » Et la femme de Gédéon l'avait bien compris, s'il prenait pas son plaisir en nous, il ne serait pas manifesté. Alors là, c'est l'Éternel qui lui répond, « Paix te soit », verset 23, « Paix te soit, ne crains point, tu ne mourras pas. » Il arriva cette nuit-là que l'Éternel lui dit, « Prends le jeune taureau qui est à ton père et le second taureau de 7 ans, tu renverseras l'autel de Baal qui est à ton père, tu couperas la chair qui est auprès. Tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de ce lieu fort avec l'arrangement convenable. Et tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois de la chair que tu auras coupé. » Et Gédéon prit 10 hommes d'entre ses serviteurs et fit comme l'Éternel lui avait dit. Et comme, à le faire de jour, il craignait la maison de son père et les hommes de la ville, il le fit de nuit. Là, nous arrivons dans un autre contexte. C'est le péché qui nous enveloppe, c'est le péché qui nous enveloppe si aisément. Quelle est la réponse à ce pourquoi de Gédéon ? Ah, mon Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Nous l'avons lu au début du chapitre, c'est la scène que nous venons de lire, c'est la chair. La présence de la chair, l'idole qui provoque l'Éternel à la jalousie. Il n'y a aucune règle générale. Il nous faut bien séparer la leçon que nous donne la femme tsunamite, la femme de Sunem avec Élisée, et la leçon que nous retirons avec Gédéon. Le point commun, c'est la grâce qui est toujours à notre disposition. Nous pouvons en être témoins déjà sur la terre. Nous la saisirons pleinement comme nous l'avons chanté dans le ciel. Mais cette immense bonté de Dieu envers chacun de ses élus. Mais le contexte est tout à fait différent entre la femme de Sunem et puis le milieu dans lequel, je ne parle pas de Gédéon lui-même, qui démontre une fidélité à la parole, à l'Éternel, à la nourriture, à ce que donne Dieu. Mais le contexte, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Eh bien, commence par détruire la chair. L'expérience de notre vie de couple, pendant 50 ans avec Annie et moi, nous a montré que bien souvent, le mal-être que l'un appelle le découragement, l'autre appelle fatigue, l'autre appelle je suis pas bien, eh bien, c'est qu'il y a un péché là derrière. Et difficile à discerner si la personne ne veut pas se livrer. Difficile de pousser la porte, mais peut-être l'ai-je déjà dit ici. Et pourtant, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Eh bien, commence par couper la chair. Commence par mettre de l'ordre dans ta vie. commence par rejeter ces petits renards. Laisse prendre ces petits renards qui ravagent nos vignes quand nos vignes sont en fleurs. Ces péchés auxquels on s'habitue. Gédéon n'avait-il vraiment aucune conscience de la cause de ce que lui appelle l'Éternel nous a abandonnés? C'est un peu la faute de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a abandonnés. C'est l'Éternel qui nous a abandonnés. Or pourtant, juste avant, Juges 6, verset 7, lorsque les fils d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète. Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux de l'Amoréen dans lequel vous habitez. Et puis, tout simplement, en conclusion, vous n'avez pas écouté ma voix. Nous devons être attentifs à ceux qui se déclarent un mal-être, qu'on appelle un découragement. Eh bien, c'est qu'il y a un mal caché qui éloigne de Dieu. Et vous n'avez pas écouté ma voix. La première chose publique que Gédéon doit faire, c'est de détruire la chair. Nous ne pouvons pas pactiser avec le mal. Le problème, c'est qu'on s'y habitue. Le problème, c'est que Gédéon s'était habitué. Ça faisait 7 ans que Madian ravageait le pays. Habitué, pas tout à fait. Il n'en a pas pris son parti. La preuve, c'est qu'il bat le froment pour nourrir sa famille. Et le froment, c'est la bonne nourriture excellente que Dieu donne. Et pour le mettre à l'abri des ravageurs de Madian, eh bien, il le fait dans le pressoir, c'est-à-dire pour se cacher. Le pressoir est toujours au sous-sol, pour qu'on puisse plus facilement remplir le pressoir des grappes, bien souvent. Enfin bon, pas toujours, souvent. En tout cas, dans un lieu caché, un lieu fermé. Le pressoir est dans un lieu fermé, à côté des cuves, à côté des fûts. Donc Gédéon ne prend pas son parti, ce qui montre que Gédéon est fidèle. Gédéon tient à garder la nourriture et il reste en relation avec l'Éternel, même s'il y a beaucoup de pourquoi. Mais la constatation que fait Gédéon, l'Éternel m'a abandonné. C'est la conclusion que ce dont je parlais nous donne, le Seigneur ne s'occupe plus de moi. Le Seigneur me laisse faire, Oui, le Seigneur ne tient pas compte de moi. Ben oui, bien sûr, le Seigneur ne tient pas compte de moi, puisque je t'ai parlé une fois, deux fois. Dieu parle une fois, deux fois, et on n'y tient pas compte. On n'en tient pas compte. Et alors, Dieu attend. Dieu attend. Abandonne-t-il pour autant? Non, au contraire, ses soins, sa grâce sont toujours là. Et nous voyons cette grâce par une simple expression, l'Éternel le regarda. C'est ce regard qui gêne quand on est mal à l'aise. Et on refuse de regarder notre Dieu, notre Père, notre Seigneur en face. On se cache à lui. Et se cachant à lui, on se cache à nous-mêmes. Récemment, dans un autre rassemblement, nous insistions sur la seconde parabole de Luc 15 avec la femme qui cherche la drachme. Que fait la femme? Symbole du Saint-Esprit. Elle allume une lampe et elle balaye la maison. Et l'insistance était donnée justement sur la lampe qui pénètre dans le cœur et qui dévoile tant de chambres secrètes. Mais c'est normal que je rencontre tel et tel, c'est normal que j'aille à tel et tel endroit, c'est normal que je fasse ceci. Quel mal y a-t-il à ça? Quel mal y a-t-il à cela? Ah, il y a la lampe. Et puis, en plus, elle balaye. C'est pas seulement elle regarde avec la lampe si elle voit quelque chose, non. Le balai, c'est que il va dans tous les coins. Le balai va sous les meubles. Le balai accès là où nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a. Eh bien, voilà le péché qui nous enveloppe si aisément. Et on dit, je ne suis pas bien et je suis découragé. Et je n'ai pas de ressources et je n'ai pas de force. Et le Seigneur ne s'occupe pas de moi. Oui, non, si, si, le Seigneur s'en occupe. Mais il s'en occupe et l'Esprit s'en occupe avec une lampe allumée et avec un balai. Le balai, non pas pour trapper avec le manche, bien sûr, mais pour regarder la poussière. Ce n'est pas des péchés grossiers, j'allais dire les ordures, non, mais disons les déchets, ce qui n'a pas sa place dans le cœur d'un chrétien. Alors l'Esprit éclaire sa lampe, il balaye, puis il dit « qu'est-ce que c'est ça ?» Alors si on dit « oui, mais ça, c'est pas grave si on passe », alors bien sûr que l'Éternel laisse. Tu ne veux pas abandonner ce mal ? Mais ce n'est pas moi qui t'abandonne. C'est le péché qui nous enveloppe si aisément. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Eh bien, laissons l'Esprit agir, laissons la lumière de l'Esprit opérer, laissons l'Esprit balayer dans nos cœurs. On n'aime pas trop que lumière soit faite sur nos affections, sur nos relations, sur nos associations, sur l'intérêt que nous avons, sur ce que nous recherchons dans ce monde, des petites choses. Et je reprends l'exemple de Cantique des Cantiques, dernier chapitre, ce sont des petits renards, mais ils sont si gentils, vous voyez, ils sont si beaux, ils sont si gentils, les petits renards. On y trouve un plaisir dans ces petits renards. Et en fait, on les aime bien. Et on dit, je suis mal à l'aise, parce que les petits renards nous sucent. Nous détournent de Dieu. Troisième exemple, en Luc 24. Verset 13. Deux d'entre eux étaient en chemin pour aller dans un village éloigné de Jérusalem, et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Il arriva, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même s'étant approché se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes tristes ?» Non, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Au contraire, ce qui est joli dans ces évangiles, c'est de voir comment le Seigneur rassemble ses disciples, réunit ses disciples, va les chercher là où ils se trouvent, pour les ramener à Jérusalem, pour que le soir venu, ils puissent se tenir là, au milieu d'eux. Il en manquait un, il manquait Thomas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Alors, quels sont les discours que vous tenez entre vous et vous êtes triste. Voilà la lumière, la lampe qui s'adresse à leur conscience et à leur cœur, bien sûr. Qu'est-ce qui vous occupe? Quel est votre sujet? Quelle est votre occupation? De quoi vous entretenez-vous? Et le résultat, eh bien, si nous ne nous entretenons pas de Christ, le résultat, c'est que nous ne pouvons qu'être tristes. Alors voilà le Seigneur qui leur pose cette question. Et l'avantage, c'est en effet, comme pour Gédéon, c'est que Cléopas répond. C'est un peu cavalier. Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui sont arrivées ces jours-ci? Pauvre Cléopas. Pauvre Cléopas. S'il y en avait un des trois qui savait ce qui s'était passé à Jérusalem ces jours-ci, c'était bien le Seigneur. Celui qui nous fait savoir par une seule parole la profondeur des souffrances de l'abandon qu'il a connu. Pourquoi, mon Dieu, c'est un pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais, Jean, tout seul à Jérusalem, tu sais même pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il faudrait quand même que tu tiennes un peu au courant de ce qui se passe. Oh, le Seigneur ne se vexe pas. Le Seigneur ne fait pas de reproche. Et le Seigneur, tout simplement, leur demande, mais voyez la simplicité avec laquelle le Seigneur agit. Pour Élisée, c'est un peu plus compliqué. Il envoie Géasi pour réveiller l'enfant, ressusciter l'enfant. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il revienne, il faut qu'il se courbe, il faut qu'il se couche sur lui. C'est plus difficile. Pour Gédéon, l'Éternel le regarda. Ici, le Seigneur pose tout simplement la question, lesquels? Ah, dites-moi, de quoi vous entretenez-vous? Lesquels? Quel est votre sujet? Qu'est-ce qui nous occupe toute la journée? Lesquels? Et alors, la réponse est claire, celle touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié? Tout ceci est très juste. Tout ceci est très juste, c'est très bien dit. Mais la suite dénote un autre esprit. Or nous, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais nous, nous espérions. Et on retrouve le « moi, je ». Moi, je. On ne trouve pas ce moi-je chez la femme de Sunem. Elle a une foi remarquable. Elle a une confiance inébranlable en l'homme de Dieu. Au contraire, elle dit, est-ce moi qui ai demandé un fils? Tu vois bien que moi, j'ai rien demandé, j'y suis pour rien. Elle se tient tout à fait à l'écart. Tout à fait à l'écart veut dire en arrière. Et elle met en avant l'homme de Dieu. C'est toi qui m'as proposé un fils. Et j'ai bien dit, ne me trompe pas. Gédéon regarde les circonstances. Où sont les merveilles? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, où sont les merveilles qu'il a manifestées depuis l'Égypte? Et au contraire, Gédéon, regardant les circonstances, en tire la conclusion humaine, je dirais la seule qui puisse tirer, l'Éternel nous a abandonnés. Et c'est un peu la réponse de ces deux disciples. Est-ce deux hommes? Est-ce un couple? On n'en sait rien, on ne connaît pas le nom du second. Un homme responsable qui prend la parole, qui agit, et qui dit, eh bien, nous espérions qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Ce qui veut dire qu'il s'était forgé une vérité, il s'était forgé une pensée, et puis voilà, patatrac, le Seigneur, ce Jésus, prophète, puissant en œuvre et en parole, il est crucifié, il ne reste plus rien, il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés, il ne nous reste plus rien. On ne peut pas dire que ce soit le péché qui enveloppe, c'est un fardeau, peut-être, qui écrase, mais c'est surtout le fait de regarder à soi. C'est le « moi, je », c'est le « nous, nous ». Nous avions une idée, nous avions comme une vérité que nous nous étions forgés. Une partie juste, une partie fausse, ils n'avaient rien compris à ce que le Seigneur leur avait dit. Nous ne leur en voulons pas, combien de fois les Écritures nous restent cachées. Et là encore, si l'Écriture nous reste cachée, ne laissons pas traîner les choses. Et comme disait un frère qui nous a enseigné, qui est décédé depuis, c'est quand on n'a pas envie de prier que l'on en a le plus besoin. Ne laissons pas la distance se faire s'agrandir entre Dieu et nous. Le Seigneur nous dit, de quoi vous entretenez-vous? Quel est votre sujet d'occupation? Eh bien, c'est nous. Nous, nous espérions. Eh bien, ça ne sert à rien. Résultat, vous êtes triste. considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas lassés, étant découragés dans vos âmes. Gédéon était découragé, ses disciples d'Emmaüs étaient découragés, ils regardaient à eux-mêmes, ils regardaient aux circonstances. L'ange de l'Éternel le regarda, dirige les regards de Gédéon vers l'Éternel, et que fait le Seigneur ? Commençant par Moïse et les prophètes, il leur annonce dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Ne perdons pas notre temps. Cherchons dans les Écritures les choses qui le concernent plutôt que de toujours être occupé de nounou, de nos propres pensées, de nos propres espérances, de nos plans, de tous les plans que nous nous sommes forgés pour gérer notre vie sur la terre. De quoi êtes-vous occupé ? Ah ben j'ai fait mon plan, j'ai fait mes projets, et puis voilà que ça ne marche pas. Alors le Seigneur me laisse tomber. Je voudrais donner quelques exemples, enfin pour Jérémie, un peu plus long. L'exemple de Jérémie le prophète. Avec bien des expériences que nous laisse ainsi Jérémie. Je ne parle pas de Jérémie comme prophète, mais Jérémie comme serviteur, et je voudrais mentionner quelques exemples. Ça nous avait occupé à la Chapelle Tech, là, peut-être il y a un an, ce qu'on pourrait appeler le découragement de Jérémie. Je dirais les pourquoi de Jérémie. Pourquoi ? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Alors nous lisons Jérémie, commençons par le chapitre 8. Verset 20, Jérémie 8, verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Combien de fois cette pensée nous revient, nous monte à la mémoire. Le temps passe, les nuages reviennent après la pluie. La moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Alors que faut-il attendre ? Puisque la moisson est passée, puisque l'été est fini, bien il n'y a rien. Je suis brisé de la ruine de mon peuple, je mène deuil, l'épouvante m'a saisi. N'y a-t-il pas de baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple ? Oh, ma tête, que naît-elle des os, et mes yeux une fontaine de larmes, et je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. Pourquoi ? Jérémie constate avec douleur, point de découragement, nous le comprenons fort bien, nous recevons les instructions que nous donne la parole, et surtout nous ne portons aucun jugement négatif sur ses serviteurs, relevant au contraire leur foi, leur intimité, leur proximité avec Dieu. Alors quel est son souhait ? Jérémie 9, verset 2. Qui me donnera dans le désert une cabane de voyageurs ? J'abandonnerai mon peuple et je m'en irai d'avec eux. Ils sont tous des adultères, une assemblée de perfides. Puisque personne ne veut m'écouter, puisque la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés, tout le travail que j'ai fait, toute ma prédication est complètement inutile, alors que me reste-t-il à faire ? Ben, tout abandonner. C'est ce que le prophète proposait à Néhémie. Venez, enfermons-nous dans le temple. Abandonnons le travail. Restons tout seuls. Qui me donnera dans le désert une cabane de voyageurs ? Alors j'abandonnerai mon peuple, je m'en irai d'avec eux. Tout mon travail est vain. L'inutilité de la prédication, ça ne sert à rien du tout. Donc je m'en vais. Et au moins je serai tranquille. Une expression semblable dans le psaume 55, au verset 4 et 5. D'abord, psaume 55. Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, des frayeurs mortelles sont tombées sur moi, la crainte et le tremblement sont venus sur moi, un frisson de terreur m'a couvert. Alors j'ai dit, si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais, je demeurerais tranquille, je m'enfuirais loin, je logerais au désert, comme ça au moins, je serais tranquille, j'aurais la paix, et j'aurais pas le fardeau de ce peuple, et le service, la nécessité qui est la mienne, de toujours avertir et de me faire casser. Alors regardons que c'est justement dans ce psaume 55 qu'est donnée la réponse à ce souhait. Si j'avais des ailes comme une colombe, je m'enfuirais loin et au moins je serais tranquille. Au verset 22, pris dans Pierre, rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais, quelles que soient les circonstances, quel que soit le fardeau, que le juste soit ébranlé. Il n'est pas question de présence du péché qui forme obstacle dans la relation entre le croyant et Dieu, évidemment, dans ces exemples-là. Donc, en Jérémie 8, l'inutilité de la prédication, la tentation de se retirer. Moi, je vais chercher à être tranquille, je serai tout seul, et je m'occupe plus d'eux. Qui se débrouille ? Deuxième exemple, au chapitre 12. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Jérémie 12. Éternel, tu es juste quand je conteste avec toi. Toutefois, je parlerai avec toi de tes jugements. On nous rappelle Habacuc 2. Attends, Habacuc 2, j'aimerais bien quand même bien comprendre ta façon de faire. Explique-moi là, je me tiendrai sur la tour, j'attendrai, je veillerai jusqu'à ce que tu m'expliques le pourquoi, les tenants et les aboutissants de ta façon de faire. Et c'est un peu Jérémie. Je sais que tu es juste. Contester ne veut pas dire contredire. Ça veut dire quand je parle avec toi, quand je parle librement avec toi, hein, comme dans Job aussi. Toutefois, je parlerai avec toi de tes jugements, c'est-à-dire tes façons d'agir. Fais-moi comprendre tes façons d'agir, tes tenants et tes aboutissants. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi ceux qui agissent très perfidement sont-ils en paix? Tu les as plantés, même ils prennent racine, ils progressent, même ils portent du fruit. Tu es près dans leur bouche, tu es loin dans leur... Mais toi, Éternel, malgré l'opposition qui grandit, tu connais mon cœur, tu me connais, tu m'as vu, tu as éprouvé mon cœur à ton égard. Qu'est-ce qui caractérisait Jérémie dans le contexte? Chapitre 11, verset 18. L'Éternel m'a fait savoir, tu m'as montré leurs actions, c'est-à-dire l'hostilité de sa famille, qu'on va voir au chapitre 12. J'étais comme un agneau familier qui était mené à la boucherie. Je ne savais pas qu'il faisait des complots contre moi, détruisant l'arbre avec son fruit, retranchant-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Et les hommes d'Anatote, au verset 21, ne prophétisent pas au nom de l'Éternel afin que tu ne meures pas de nos mains. C'est justement, allez, prends cette cabane de voyageurs et puis laisse-nous tranquilles. Mais là, c'est le peuple qui le demande. Jérémie dit à l'Éternel, tu me connais, tu m'as vu, tu as éprouvé mon cœur à ton égard, malgré l'opposition qui est là. Quelle est la réponse de Jérémie 12, verset 5? Une réponse un peu difficile. Réponse difficile. Le pauvre Jérémie, il devait apprendre encore pas mal de choses, mais Dieu l'avait formé pour un service bien particulier. Si tu as couru avec les piétons et qu'il t'est lassé, comment rivaliseras-tu avec les chevaux? Si dans une terre de paix tu te crois en sécurité, que feras-tu quand le Jourdain sera enflé? Parce que les piétons, ce sont tes frères aussi, et la maison de ton père, eux aussi ont agi perfidement envers toi. Eux aussi ont crié après toi à plein gosier en disant « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel afin que tu ne meures pas par nos mains ». et l'Éternel le met en garde, ne les crois point. Garde-toi de leurs flatteries. Même s'ils te disent de bonnes paroles, des flatteries, c'est pour te détourner. Ils ont agi perfidement. Ils agissent de façon nuisible sans le montrer. Pauvre Jérémie. Jérémie dit, mais explique-moi pourquoi les méchants prospèrent et pourquoi les habitants d'Anatote, mes frères, les habitants du village où je suis né, sont tous contre moi. Eh bien, il faut que tu apprennes, Jérémie. Il faut que tu fasses des progrès. Il faut que tu te fortifies. Si tu as couru avec les piétons, comment rivaliseras-tu avec les chevaux ? Pour l'instant, ce sont tes frères, ce sont les hommes d'Anatote qui sont contre toi. Tout à l'heure, dans quelques chapitres après, ce sera le roi et les princes. Ce sera la cour de la prison. Ce sera le puits dans lequel il enfonce. Et il faut qu'Ibn Edelmélech vienne le tirer avec des lambeaux pour le sortir de là. Là, alors, ce sont les chevaux. Les princes, le roi qui sont contre lui, c'est le Jourdain qui enfle. Pour l'instant, dit l'Éternel à Jérémie, ce sont que des piétons. Alors il faut que tu te fortifies et il faut que tu deviennes fort dans les l'opposition que tu rencontres à ce moment-là. Nous avançons, continuons encore un peu Jérémie. Chapitre 15, verset 10, mais je crois qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, ça suffit. 15, verset 10, il y a déjà beaucoup. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as enfoncé, homme de débat et homme de contestation. Et voilà la cause profonde de ce désir de Jérémie, de prendre une cabane de voyageurs, de s'enfuir au désert. Pourquoi ? Tu m'as enfanté, homme de débat, homme de contestation. De nouveau, chapitre 20, il maudit le jour où il est né. Job maudit le jour où il est né, etc. Chacun me maudit, fin du verset 10. Alors l'Éternel dit, si je ne te délivre pour le bien, assurément je te délivrerai pour le bien. Si je ne fais venir, assurément je fais venir au devant de toi l'ennemi au temps du malheur, au temps de la détresse, etc. Verset 15. Tu le sais, ô Éternel, souviens-toi de moi. Visite-moi, venge-moi de mes persécuteurs. Selon la lenteur de ta colère, ne m'enlève pas. Très jolie cette expression. Par deux ou trois fois, on trouve dans Jérémie, voilà, alors une expression, c'est en 10-23, là voilà l'expression, corrige-moi, voilà le mot que j'ai, corrige-moi, mais avec mesure. Corrige-moi, mais avec mesure. Et non dans ta colère, de peur que tu ne me rendes chétif. Corrige-moi, mais avec mesure. Voilà là, voilà ce que nous avons à dire au Seigneur. Corrige-moi, oui, mais manifeste envers moi l'immensité de ta grâce, de tes bontés envers nous, parce que nous sommes tes élus. Selon la lenteur de ta colère, ne m'enlève pas. Sache que pour toi, je porte propre, donc je reviens à Jérémie 15, verset 16. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs. Je ne me suis pas égayé. À cause de ta main, je suis assis solitaire parce que tu m'as rempli d'indignation. Jérémie, une fois de plus, fait le constat de ce qui l'anime, de ses relations avec l'Éternel, à cause de toi, c'est à cause de toi que je porte l'opprobre, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as désigné comme prophète et qui m'as envoyé par le peuple, c'est pas moi qui le voulais. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, je ne me suis pas égayé. Que Dieu nous garde, et surtout pour nos plus jeunes, de ne pas nous asseoir dans l'assemblée des moqueurs et de ne pas participer à leurs moqueries, à leurs paillardises, déplacées, grossières, à leur blasphème. L'homme connaît l'évangile, c'est pour s'en moquer. Je ne sais même plus d'ailleurs si nos jeunes connaissent l'évangile. De mon âge, ils le connaissaient. Je ne sais plus. Et puis, à cause de ta main, je me suis assis solitaire parce que tu m'as rempli d'indignation. Tu m'as rempli d'indignation. Partout où je vais, chacun me maudit. Eh bien, à quoi bon tout cela? Et de nouveau, on retrouve ce à quoi bon, ce pourquoi, au verset 15. Alors pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable, elle refuse d'être guérie? Pourquoi? À quoi ça sert que je porte l'opprobre? À quoi ça sert que j'ai trouvé tant de joie, l'allégresse et la joie de mon cœur dans tes paroles? À quoi ça sert que je me sois séparé? Je n'ai pas participé à la moquerie. Et bien souvent, moquerie malsaine et blasphème. À quoi ça sert? Alors pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable? Alors cette fois, l'été est passé, la moisson est finie, cette fois c'est lui. Et moi, je ne suis pas guéri. La situation est toujours la même. Rien ne s'améliore. Au contraire, il semble bien qu'elle va s'aggravant de plus en plus. Pauvre Jérémie, il n'en a pas fini. Il va devoir partir encore avec le peuple en Égypte, où il mourra là-bas. Alors que dit-il? Verset 18. Milieu. Me serais-tu bien comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne sont pas constantes? Je suis fidèle. Il peut reprendre sa fidélité, il a déjà parlé, on l'a vu. Je suis fidèle, j'accomplis mon service, je ne cesse pas d'être pasteur en te suivant, on n'aura pas le temps. C'est au chapitre 17, verset 16. Mais moi, je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur en te suivant. Je ne me suis pas hâté, je ne me suis pas dépêché d'arrêter d'être pasteur. Et cette cabane de voyageurs à laquelle j'ai aspiré, je ne l'ai pas prise. Et la parole de Dieu a été envers moi comme un feu. Et je ne pouvais pas la retenir. Alors à quoi bon? À quoi ça sert tout ça? Que ce soit ma prédication devant le peuple, que ce soit dans ma relation avec toi, et que ce soit dans tout ce que je reçois de la part du peuple, à cause de ton indignation et à cause de l'opprobre. Fin du verset 16 et fin du verset 17. Me serais-tu bien comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne sont pas constantes? On va dire, il n'est quand même pas gêné, Jérémie. Non. Faisons comme Jérémie. Étant donné que ce sont des pensées qui montent en nous, n'essayons pas de les cacher à Dieu. Ouvrons notre cœur à Dieu. De toute façon, on lui connaît nos pensées. Alors disons-lui ouvertement nos pensées. Et je reprends encore, mais le temps avance. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon de faire des fils de Corée. Ça fait 3-4 fois que je le mentionne et j'y reviens souvent. Les fils de Corée, au psaume 44, qui disent à l'Éternel, qui rappellent à l'Éternel leur fidélité, à partir de psaume 44, verset 17, « Tout cela nous est arrivé, nous t'avons pas oublié, n'avons pas été infidèles, notre cœur ne sait partir en arrière, n'avons pas dévié. À quoi ça sert ?» Verset 22, « À cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours. Nous sommes estimés comme des brebis de tuerie. » Exactement ce que dit Jérémie au chapitre 15. Alors que disent les fils de Corée ? Éveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi caches-tu ta face, oublies-tu notre affliction et notre oppression ? Réveille-toi. Agis. Et Jérémie dit, mais alors, attends, est-ce que tu me serais comme une source trompeuse ? Au début, là, le peuple s'était détourné des eaux qui coulent doucement pour aller rechercher les eaux d'Assyrie et autres. Alors toi, est-ce que vraiment tu me tromperais ? Et tout ce que j'ai fait, tout ce que tu m'as promis ne servira à rien. Que nous soyons clairs, que nous soyons ouverts, que nous soyons francs avec Dieu. Dieu, je dis bien, que de toute façon, connaît toutes choses. Et si nous lui disons ce qui nous pèse, ce fardeau qui nous pèse, là c'est un gros fardeau, qu'on avait vu plusieurs fardeaux, les uns après les autres, qui pèsent sur Jérémie, il arrive à dire, est-ce que vraiment je peux avoir confiance en toi? Alors, c'est pourquoi, dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai. Ça veut dire, si tu détournes comme les disciples d'Emmaüs, si tu détournes tes yeux des circonstances, de tes pensées personnelles, de ton appréciation personnelle, du jugement que tu portes, de l'appréciation que tu portes sur moi comme étant une source qui trompe, si tu te détournes, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi comme prophète. Eh bien, que nous puissions toujours rechercher la place qui nous revient. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux, c'est-à-dire reste solitaire. Au verset 17, je me suis assis solitaire, mais attends, surtout, ne recherche pas l'assemblée des méchants, ne recherche pas leur joie et leur plaisir, mais reste solitaire, et tu te tiendras devant moi, tu seras comme ma bouche, tu te tiendras devant moi, tu seras mon prophète, et moi, je suis avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Je te délivrerai de la main des iniques, je te rachèterai de la main des violents, les promesses que l'Éternel avait faites à Jérémie au premier chapitre. Il y aurait d'autres exemples concernant Jérémie lui-même, mais nous arrêtons là. L'heure est avancée.
Simplement la lecture de quelques versets en Romains 8. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui ? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée ? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.